Charles Dickens, Horatio Sparkins. Je vous assure, mon ami, que l'autre soir au bal, il s'est énormément occupé de Teresa, confia Mrs. Malderton à son mari, qui rentrait de la cité après les fatigues du jour, se reposait en dégustant son porto, un foulard de soie sur la tête et les pieds sur les chenets. Oui, vraiment, il s'en est beaucoup occupé. Et je le répète, nous ne saurions trop l'encourager. Il faut absolument que nous vous invitions à dîner.
Qui ça ? Demanda M. Malderton.
Mais vous savez bien, mon ami, ce jeune homme à moustache noire et cravate blanche, qui faisait sa première apparition dans notre cercle, et dont toutes les jeunes filles ne font plus que parler. Le jeune, oh, comment donc, mon Dieu ? « Marianne, quel est donc son nom ?» demanda Mrs. Malderton à sa plus jeune fille, qui, l'air rêveur, travaillait à une bourse au filet. « Monsieur Horatio Sparkins, maman, » répondit Miss Marianne, et elle eut un soupir. « Eh oui, bien sûr, Horatio Sparkins, » reprit Madame Malderton. Le jeune homme... certes, le plus distingué que j'ai jamais vu de ma vie. Or, réellement, dans cet habit, si bien coupé, l'autre soir, on aurait dit le prince Léopold, maman, et si noble, si délicat de sentiment. Rappelez-vous, mon ami, insista Madame Malderton, que Teresa vient d'avoir 28 ans, et qu'il est grand temps de se remuer un peu. Miss Teresa Malderton était une jeune personne de très petite taille, un peu forte, rouge de visage, mais de bon caractère. Elle n'était pas encore mariée, disgrâce qu'il serait d'ailleurs bien injuste d'imputer un manque de persévérance de sa part. En vain flirtait-elle depuis 10 bonnes années. En vain, M. et Mme Murchison arrivaient-ils sans relâche étendu leur relation à tout ce que Camberwell et même Winworth et Brixton comptaient de jeunes célibataires sortables, sans compter ce qui leur tombait de la ville. Mais Miss Malderton était aussi connue que le lion qu'on voit aux fêtes de Northumberland House et n'avait guère plus de chance d'être enlevée. « Oh, je suis sûr qu'il vous plairait !» poursuivait Madame Malderton. « Il est si comme il faut. »« Et si intelligent, » dit Miss Marianne. « Il parle si bien, » ajouta Miss Teresa. « Il a pour vous la plus haute estime, mon ami, » déclara Madame à son mari. Monsieur Malderton toussa et regarda le feu. « Oui, je suis sûr. » qu'il attache le plus grand prix à la société de papa, dit Miss Marianne. Oh, cela ne fait pas de doute, appuya Miss Teresa. Autant dire qu'il m'en a fait la confidence, observa Madame Malderton.
Eh bien, soit, répondit Monsieur Malderton, assez flatté. Si je le vois demain au bal, je l'inviterai peut-être. Il sait, j'espère, que nous habitons au Clodge, à Camberwell, ma chérie. Naturellement, et aussi que vous avez cheval et voiture.
Oui, j'y songerai, conclut M. Malderton, s'installant pour faire un petit somme. Oui, j'y songerai. M. Malderton était un homme dont les idées n'allaient pas plus loin que le Lloyd's, la bourse, l'India House et la banque. Quelques spéculations heureuses l'avaient élevé d'un rang obscur et d'une pauvreté relative à une situation opulente. Comme il arrive souvent en pareil cas, ses prétentions et celles de sa famille s'étaient singulièrement haussées en même temps que montait leur fortune. Pour singer la haute société, ils affectaient d'être à la mode, savaient le goût du jour et sans autre folie, affichant en revanche une profonde et noble aversion pour tout ce qui pouvait paraître tant soit peu vulgaire. M. Malderton était généreux, par ostentation, et 3 par ignorance, dédaigneux par orgueil. L'égoïsme et le besoin de paraître le poussaient à tenir externe table. L'intérêt et le goût des sommes bonnes choses lui amenaient nombre de convives. Il aimait à recevoir à sa table les gens célèbres, ou qu'il croyait tels, parce que c'était flatteur à raconter, mais il ne put jamais souffrir ce qu'il appelait les malins. Sans doute caressait-il ce sentiment comme un hommage à ses deux fils, qui sur ce point ne risquaient aucunement d'inquiéter leur respectable père. L'ambition de Malderton était de se créer des relations dans les sphères supérieures. Une des conséquences inévitables de cette prétention, jointe à une parfaite ignorance du monde en dehors de leur cercle étroit, était que le premier venu qui pouvait se flatter d'être lié avec des gens de la noblesse ou avec des gens en place, se voyait admis sans autre passeport à la table d'Oak Lodge à Camberwell. L'apparition de M. Horatio Sparkins avait au plus haut point de surpris les habités du bal et piqué leur curiosité. Qui pouvait-il être? Sa réserve était évidente, sa mélancolie manifeste. Peut-être un clergyman? Oh, il dansait trop bien. Un avocat? Il se disait étranger au barreau. Il parlait en termes choisis et discourait beaucoup. Peut-être était-ce quelque étranger de marque, venu en Angleterre, en vue d'observer le pays, ses coutumes et ses mœurs, et fréquentant bals et banquets pour se familiariser avec la haute société, les belles manières et la distinction anglaise. Non, il n'avait pas le plus léger accent. Était-ce donc un chirurgien, un écrivain pour magazine, un auteur de romans modernes, un artiste? Non. Contre chacune de ces conjectures se dressait quelque objection solide. Pourtant, concluait-on, c'est sûrement quelqu'un. Je le croirais volontiers, se disait en lui-même M. Malderton, du moment que notre supériorité l'a frappé et que nous témoigne tant d'égards. Le prochain bal tombait justement au lendemain de cette conversation. La voiture attendait à 9 heures précises devant Oak Lodge. Mademoiselle Malderton était en robe de satin bleu ciel, garnie de fleurs artificielles. Madame Malderton, qui était petite et corpulente, vêtue exactement de même, avait l'air de sa fille aînée, multipliée par 2. Monsieur Frédéric Malderton, le fils aîné, dans sa tenue de soirée, réalisait l'idéal de beauté du garçon de café chic. Monsieur Thomas Malderton, le cadet, avec son col blanc, son habit bleu, ses boutons polis et son cordon de montre rouge, ressemblait tout à fait au portrait de ce jeune et charmant, mais excentrique gentleman, George Barnwell. Tous s'étaient bien promis de gagner les bonnes grâces de M. Horatio Sparkins. Miss Teresa, naturellement, se montrait aimable et gracieuse, comme toute jeune fille de 28 ans en quête d'un mari. Madame Malderton serait toute grâce et sourire. Miss Marianne solliciterait la faveur de quelques vers pour son album. M. Malderton patronnerait le jeune inconnu en l'invitant à dîner. Tom se promettait de sonder la profondeur de ses connaissances concernant 2 matières capitales, les cigares et le tabac à priser. M. Frédéric Malderton lui-même, l'arbitre de la famille pour tout, ce qui touchait à bon goût, à la toilette et aux mondanités, M. Frédéric, qui avait sa garçonnière en ville et ses entrées à Covent Garden, qui s'habillait chaque mois à la dernière mode, et que l'on voyait deux fois la semaine sur la Tamise pendant la saison, M. Frédéric, dont un ami intime avait réellement connu un gentleman ayant vécu jadis à la cour, M. Frédéric lui-même avait décrété que Horatio Sparkins devait être un bien charmant garçon et qu'il ferait l'honneur de lui proposer une partie de billard. Le premier objet qui frappa les regards anxieux de l'impatiente famille à son entrée dans la salle de bal fut l'intéressant Horatio. Les cheveux rejetés en arrière, les yeux au plafond, à demi renversés dans un fauteuil, et l'air méditatif.
« Le voilà, mon ami !» chuchota Madame Balderson à son mari.
« Oh, comme il ressemble à Lord Byron !» murmura Miss Teresa.
« Oh non, plutôt à Montgomery !» fit à vive voix Miss Marianne.
« Bon, vos portraits du capitaine Cook ?» suggéra Tom.
« Tom, ne dis pas d'ânerie, » fit le papa, qui rabrouait son fils à tout propos, sans doute pour l'empêcher de devenir un malin, précaution d'ailleurs bien superflue.
L'élégant Sparkins garda merveilleusement la pose tout le temps que mit la famille à traverser le salon. Alors il se leva d'un bond, jouant à sa perfection la surprise et le ravissement, vint tout à fait cordial vers Madame Balderton, salua ses demoiselles avec une grâce enchanteresse, s'inclina devant M. Balderton et lui serra la main avec un respect proche de la vénération et répondit aux compliments des deux jeunes gens d'un air moitié déférent, moitié protecteur, qui les convainquit pleinement de l'importance et causa et aussi de l'affabilité du personnage. Miss Malderton, fit Horatio, après les saluts d'usage et s'inclinant jusqu'à terre, me sera-t-il permis d'oser espérer que vous daignerez m'accorder la faveur ?
Oh, je vais voir si je l'ai pas déjà promis, dit Miss Teresa, affectant la plus cruelle indifférence.
Car vraiment, dans tout ce monde, Horatio prit le plus saillant de ses airs malheureux.
Mais avec le plus grand plaisir, minauda enfin l'intéressante Teresa.
Les traits d'Horatio s'éclairèrent comme un vieux chapeau sous l'averse.
C'est en effet un charmant jeune homme, fit M. Malderton, flatté,
tandis que l'obséquieux Sparkins et sa danseuse entraient dans les quadrilles, prêts à commencer.
« Il est tout à fait bonne façon, » dit M. Frédéric.
« Oui, c'est un type épatant, » interjeta Tom, qui s'arrangeait toujours pour mettre les pieds dans le plat.
Il parle absolument comme un commissaire-priseur.
« Tom !» lança solennellement le père. « Je croyais t'avoir déjà dit de ne pas faire l'idiot !»
Et Tom parut aussi heureux qu'un coq par un matin de brume.
« Ah, qu'il est délicieux !» disait à sa danseuse le séduisant Horatio, tandis qu'ils se promenaient tous deux par la salle après la première figure. « Ah, qu'il est délicieux et qu'il est reposant !» de s'arracher aux sombres orages, aux vicissitudes et aux tourments de la vie, ne serait-ce que pour de courts et fugitifs moments, et de les passer, ces moments si prompts à s'évanouir, dans l'exquise et céleste compagnie d'une personne dont le dédain vous mènerait au trépas et à la froideur, à la folie, dont la trahison ferait d'un homme un maudit et la fidélité un bienheureux, dont l'affection serait le plus beau présent que le ciel puisse faire un mortel.
Quelle âme tendre, quel cœur sensible, songeait Miss Teresa.
Et elle s'appuyait avec plus d'abandon au bras de son cavalier.
Non, c'en est trop, reprit l'élégant Sparkins, prenant un air théâtral.
Malheureux, que je dis. Est-ce à moi, qu'il convienne de tels sentiments, Miss Malderton? Il s'arrêta brusquement. Puis-je espérer qu'il me sera permis de vous offrir l'humble tribut? En vérité, Monsieur Sparkins, répliqua Teresa, ravie et les joues empourprées de la plus douce confusion, je ne puis que vous prier d'en parler à papa. Sans son consentement, je ne saurais vraiment. Votre père ne saurait trouver mal que. Si fait, vous ne le connaissez pas, interrompit Miss Teresa, qui savait bien qu'il n'y avait rien à craindre, mais aurait aimé que l'entretien prit tournure de scène de roman. Il trouverait mal que je vous offre un grog, reprit l'adorable Sparking, un peu surpris. C'est tout, songea Teresa déçue. Que de cérémonie pour rien. Vers la fin de la soirée, M. Malderton, qui venait ainsi que ses fils de causer longuement avec Horatio Sparkins, lui déclara « Vous me feriez le plus grand plaisir, monsieur, en venant dîner à Oak Lodge, à Camberwell, le dimanche prochain, à 5 heures, si toutefois rien de mieux ne vous retient. » Horatio fit un salut reconnaissant et accepta la flatteuse invitation. Je dois vous avouer, continua le père, tendant sa tabatière à son nouvel ami, je ne prends pas à ces soirées la moitié du plaisir que me donne le confort, j'allais dire, le luxe d'Oak Lodge. Pour un homme d'un certain âge, ces bals n'ont plus beaucoup de charme. Mais après tout, monsieur, qu'est-ce donc que l'homme, fit Sparkins, le métaphysicien, je vous le demande. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Oh, c'est bien vrai, dit M. Malderton, c'est bien vrai. Nous savons que nous vivrons et respirons, reprit Horatio. Nous avons des besoins et des désirs, des convoitises et des appétits. Effectivement, dit M. Frédéric Malderton, prenant un air profond. Nous avons dû ce que nous existons, répéta Horatio. Haussant le ton. Mais là, nous demeurons courts. Là s'arrête notre savoir. Là est le point culminant de nos connaissances. Là est l'aboutissement de nos fins. Que savons-nous de plus ? Oh, rien, répondit M. Frédéric, qui était ici plus qualifié que personne pour répondre. Ma parole, fit Malderton aîné, dans le landau qui les ramenait au logis, ce jeune Sparkins est un garçon prodigieux. Quel savoir surprenant! Quelle connaissance extraordinaire! Et quelle splendide façon de s'exprimer! À mon avis, dit Miss Marianne, c'est quelque grand personnage déguisé. Quel être exquisement romanesque! « Oui, il parle très bien et très fort, » glissa timidement Tom. « Mais je comprends pas très bien ce qu'il veut dire. »« Ah, Tom, je commence à désespérer de te voir jamais rien comprendre, » fit le père, qui naturellement avait tiré de grandes lumières de la conversation de Horatio Sparkins. « Il n'y a pas à dire, » Tom ajouta Miss Teresa. T'as été ce soir d'un ridicule. Pas diable, s'écria toute la famille. Et le malheureux Tom tâcha de se faire tout petit dans son coin. Cette nuit-là, M. et Mme Malderton s'entretinrent longuement de l'avenir de leur fille et des arrangements à prendre. Miss Teresa s'en fut se coucher, se demandant ce qu'elle ferait au cas où elle épouserait un noble. Et s'il lui serait alors possible, en conscience, de continuer à avoir ses présentes relations. Toute la nuit, elle rêva de seigneurs déguisés, de grandes réceptions, de plumes d'autruche, de corbeilles de noces et d'Horatio Sparkins. Le dimanche matin, la famille, se livra à toutes sortes de conjectures sur le mode de transport qu'adopterait Horatio si impatiemment attendu. Avait-il sa voiture? Oh, il se pouvait très bien qu'il vînt à cheval. Et s'il allait faire à la diligence l'honneur de la choisir? Ces suppositions et quelques autres d'égale importance occupèrent toute la matinée l'esprit de Mrs. Malderson et de ses filles autour de l'église. Vraiment, déclara M. Malderton à sa femme, vraiment, ma chère, c'est une calamité que notre rustre de frère se soit invité à dîner aujourd'hui. Vu la visite de M. Sparkin, je m'étais bien gardé, justement, de prier personne autant que Franwell. Et pensez que votre frère, un commerçant, oh non, c'est insupportable. J'avoue, je voudrais pour rien au monde qu'il fît mention de sa boutique devant notre invité, non pas même pour 10 000 livres. Si encore il avait le sens de le cacher l'opprobre qu'il est pour notre famille, mais il est si fier de son maudit commerce qu'il faut qu'il raconte à tout le monde ce qu'il fait. Monsieur Jacob Barton, dont il est ici parlé, était un épicier en gros, à ce point vulgaire et dépourvu du sens des convenances, qui n'hésitait jamais, en effet, à se déclarer simple commerçant. C'était là ce qu'il avait enrichi, et il n'avait rien sans cacher, rien devant personne. Ah, Flamwell, comment allez-vous, cher ami? Demanda M. Malderton à un petit homme prétentieux et portant lunettes vertes qui entrait dans le salon. Vous avez reçu ma lettre? Mais bien sûr, et c'est pourquoi je suis venu. Vous qui connaissez tout le monde, vous ne connaîtriez pas au moins le nom, cet Horatio Sparkins? M. Flamwell était un de ces hommes étonnamment renseigné sur tout, comme on en trouve parfois dans les salons. À les entendre, ils connaissaient l'univers. En réalité, ils ne connaissent personne. Chez les Malderton, où l'on accueillait avidement toutes les histoires relatives au grand monde, il était particulièrement bien vu, et sachant à qui il avait affaire, il y poussait à l'extrême sa manie de se dire en relation avec tout et tous. Il avait une curieuse façon de débiter ses plus gros mensonges, en manière de parenthèse et d'un air détaché, comme pour éviter qu'on le crût infatué de lui-même. Ma foi, non, je ne le connais pas, sous ce nom, du moins, répondit Flamwell à voix basse, et prenant sa mine la plus grave. « Bon, il ne doit pourtant pas m'être inconnu. Il est grand ?»« De taille moyenne, » fit Miss Teresa. « Brun ?» demanda Flamwell, se lançant hardiment dans les hypothèses. « Oui, » répondit vivement Miss Teresa. « Le nez un peu camu ?»« Ah non, aquilin !» rectifia-t-elle, désappointée. « Oui, aquilin, c'est bien ce que je voulais dire. Un jeune homme élégant ? Oh, certes. Extrêmement agréable dans ses façons. » « Mais oui, c'est bien cela !» s'écria d'une voix toute la famille. « Vous le connaissez sûrement ?»« Oui, je pensais bien que vous le connaîtriez, pour peu qu'il ait fait quelqu'un. » triompha Malderton. « Et qui est-ce, selon vous ?»« Eh bien, d'après votre description, » conclut Flamwell, se recueillant et presque dans un murmure, « ça m'a tout l'air d'être l'honorable Augustus Fiat Edward Fitzgerald Fitz Osborne. C'est un jeune homme de très grand mérite. D'ailleurs, c'est original. » Selon toute probabilité, quelque intrigue leur a fait changer de nom momentanément. Le cœur de Teresa battit plus vite. Était-ce possible? L'honorable Augustus Fitz Edward Fitz John Fitz Osborne. Oh, le joli nom aggravé élégamment sur deux cartons satinés, liés l'un à l'autre par une faveur de satin blanc. L'honorable Mrs. Fitzgerald, Fitzjohn, Fitzjohn. Oh, cette pensée la grisait d'avance. Au lieu 5h-5, dit M. Malderton, consultant sa montre. Il va pas nous faire faux bon, j'espère. Le voilà, s'écria Miss Teresa, avertie par deux grands coups à la porte d'entrée. Aussitôt, comme toujours, pour un visiteur fébrilement attendu, chacun fit semblant de ne pas même soupçonner l'approche d'âme qui vive. La porte s'ouvrit. « Monsieur Barton !» annonça le domestique. « Oh, le diable l'emporte !» fit Malderton entre ses dents. « Bonjour, cher monsieur, comment allez-vous? Nous apportez-vous des nouvelles ?»« Me voilà, non !» répondit l'officier, épicié, avec sa rudesse ordinaire. « Non, pas spécialement. Rien de bien neuf à ma connaissance. Tiens, monsieur Flamwell, enchanté de vous voir, monsieur. »« Voilà monsieur Sparkins !» s'écria Tom, qui guettait à la fenêtre. « Et sur quel cheval noir ?» En effet, c'était Horatio, sur un grand cheval noir, qui s'avançait par courbette et par bond, tel un coursier de cirque. Il fallut jouer du mort et de la bride. Après ébruitement, froide et cabriole, l'animal consentit pourtant à s'arrêter, quoique 100 yards au-delà de l'entrée. M. Sparkins mit pied à terre, abandonnant sa monture au palefrenier de M. Malderton. Les présentations se firent avec toute la solennité voulue. M. Flamwell, derrière ses lunettes vertes, examinait Horatio avec une mystérieuse gravité, tandis que le galant Horatio chargeait ses regards d'indicibles messages pour Teresa. « Est-ce bien, honorable, M. Augustus, je ne sais plus qui, demanda Malderton à Flamwell, qui lui donnait le bras pour passer à la salle à manger. « Oh, non, ou du moins, pas exactement, répondit l'oracle. « Pas exactement. Et qui est-ce donc alors ?»« Chut !» fit M. Flamwell. Et l'air important dont il hocha la tête marquait assez qu'il le connaissait fort bien, mais il ne pouvait, pour des raisons d'État, révéler ce grave secret. Quelque ministre peut-être, venant se rendre compte par lui-même de ce que pensait le peuple. « Monsieur Sparkins, » fit Madame Malderton ravie, « puisque vous demandez de séparer ces demoiselles, puis-je vous le demander ?»« John, une chaise pour ce gentleman, entre Miss Teresa et Miss Marianne. » Cet ordre s'adressait à un individu qui, en temps ordinaire, cumulait les fonctions moitié groom et moitié jardinier, mais qu'en ce jour-là, où il fallait éblouir M. Sparkins, on avait affublé d'une cravate blanche et d'escarpins, arrangés et brossés pour faire figure de second laquais. Le dîner était excellent. Horatio comblait de prévenance Miss Teresa et les convives rivalisaient de bonne humeur. Sauf M. Malderton, qui, connaissant la nature de son beau-frère, Barton sentait peser sur lui cette espèce de malaise qu'éprouvent, au dire des journaux, les gens de quartier quand un garçon de cabaret se pend dans un grenier à foin. Sensation beaucoup plus facile à imaginer qu'à décrire. Flamwell, avez-vous vu dernièrement votre ami Sir Thomas Noland ? Demanda M. Malderton, guettant du coin de l'œil l'effet qu'allait produire sur Horatio la mention d'un si haut personnage. Oh, ma foi, non, pas du tout, pas dernièrement. Mais j'ai vu Lord Campbellton avant-hier. Sa seigneur y va bien, j'espère, dit Malderton, sur le ton du plus vif intérêt. Est-il besoin de dire qu'il ne soupçonnait même pas avant ce jour l'existence du personnage? Mais oui, très bien, en vérité. Quel charmant garçon! Oh, je l'ai rencontré dans la cité, nous avons causé longuement. Je suis assez intime avec lui. Malheureusement, il m'a été impossible de prolonger la conversation autant que j'aurais voulu, car j'avais à ce moment-là chez mon banquier, homme extrêmement riche et membre du Parlement, avec qui je suis également assez, oh, je puis bien me dire, tout à fait intime. Oui, je sais ce que vous voulez dire, répliqua l'amphitryon. En vérité, il en avait là-dessus tout autant que Sophène lui-même. Oh, c'est un homme qui fait de très grosses affaires. On effleurait là un sujet dangereux. À propos d'affaires, intervint M. Barton, du beau milieu de la table, un monsieur que vous connaissiez très bien, Malderton, avant votre coup de veine à la bourse, est entré l'autre jour dans notre boutique et... Barton, puis-je vous demander une pomme de terre, interrompit le malheureux maître de maison, espérant étouffer l'histoire dans l'œuf. Je dirais donc, poursuivit Barton, après avoir passé la pomme de terre, qui me dit comme ça, vous êtes content de vos affaires? Alors moi, en plaisantant, vous savez comme je suis, je lui réponds comme ça, je n'ai jamais rougi de mes affaires, et j'espère bien que mes affaires rougiront jamais de moi. Monsieur Sparking, un verre de vin, prononça Malderton, qui cherchait en vain à dissimuler son dépit. Avec le plus grand plaisir, monsieur. Mais nous parlions l'autre soir, reprit l'amphitryon, s'adressant à Horatio, autant pour permettre au nouvel invité de déployer normalement son talent de causeur que dans l'espoir de couper court aux histoires d'épicerie. Nous parlions l'autre soir de la nature de l'homme. Votre argumentation m'a fortement impressionné. Ben, moi pareillement, dit M. Frédéric. De la tête, Horatio fit un gracieux salut. Dites-moi, M. Sparkins, quelle est votre opinion sur la femme? Demanda Mme Malderton. Les jeunes filles minaudèrent. L'homme, reprit Horatio, l'homme qu'il parcourt les plaines ensoleillées, riantes et fleuries du second Éden, ou bien les régions plus arides, plus désolées, je puis dire bien plus banales, où il nous faut nous résier à vivre dans les temps comme les nôtres. L'homme, en toutes circonstances et en tous lieux, courbé sous les rafales meurtrières des zones glaciales, ou dévoré par les rayons d'un soleil vertical partout, sans la femme, l'homme serait seul. Oh, je suis enchanté, Monsieur Sparkins, de vous entendre professer d'aussi honorables opinions, dit Madame Malderton. Et moi de même, ajouta Miss Teresa. Horatio eut un regard de ravissement, et la jeune fille rougit. À mon avis, dit Monsieur Barton. Oh, je sais ce que vous allez dire, interrompit Malderton, bien décidé cette fois à ne pas laisser parler son parent. Et je ne suis pas du tout de votre avis. Comment? Demanda l'épicier ahuri. Je suis désolé de vous combattre, Barton, mais je ne puis donner mon assentiment à une proposition que je considère comme monstrueuse. Ben, je voulais dire, vous n'arriverez jamais à me convaincre, déclara Malderton, prenant un air de résolution farouche, jamais. Pour moi, dit M. Frédéric, attaquant à son tour, je serai accepté entièrement les raisons de M. Sparkins. Eh quoi, dit Horatio, qui s'enfonça plus encore dans la métaphysique et la dialectique, Quand il vit que tout l'élément féminin de la famille l'écoutait dans un ravissement béat, eh quoi ? Est-ce que l'effet est la conséquence de la cause ? Est-ce que la cause est précurseur de l'effet ? Mais tout est là, dit Flanwell. Assurément, dit M. Malderton. Parce que si l'effet est la conséquence de la cause, et si la cause précède l'effet, je crois que vous ayez tort, ajouta Horatio. Positivement, fit le flagonneur Flamwell. Toutefois, je crois que ma déduction ne soit rigoureusement juste, conclut Sparkins sur un ton d'interrogation. Cela ne fait aucun doute, approuva une fois de plus Flamwell. Ah, voilà qui clôt le débat. Après tout, c'est possible, concéda M. Frédéric. C'est une chose que jusqu'ici je n'avais pas saisie. Bon, je ne sais pas encore très bien, pensa l'officier. Mais je veux bien croire que c'est juste. Croyez-vous qu'il est intelligent ? Dit tout bas à ses filles Mme Malderton, tandis qu'elle se retirait au salon. Mais c'est un amour, tout simplement, s'écrièrent ensemble les deux jeunes filles. Il parle comme un oracle. Quelle expérience il doit avoir de la vie. Les messieurs, une fois seuls, eurent un moment de silence, durant lequel tous prirent un air grave, comme écrasés par le sérieux de la dernière discussion. Flamwell, qui s'était mis en tête de découvrir quelles étaient en vrai la personne et la profession de M. Horatio Sparkins, fut le premier à prendre la parole. « Excusez-moi, monsieur, dit ce distingué personnage, mais je présume que vous ayez fait votre droit. Moi aussi, dans le temps, j'ai songé à me faire avocat, et je suis assez intime avec quelques-uns des gloires les plus hautes de cette noble profession. Mon droit, non, non. » fit Horatio avec un peu d'hésitation. « Non, pas exactement. Mais du moins, vous avez beaucoup vécu parmi les robes de soie, si je ne me trompe, » insista respectueusement Flamwell. « Oh, presque toute ma vie, » répondit Sparkins. Voilà qui tranchait la question dans l'esprit de M. Flamwell. Sparkins était un jeune gentleman, près d'entrer au bureau barreau. « Ne voudrais pas être avocat, » dit Tom, qui n'avait pas encore soufflé mot. Et des yeux, il fit le tour de la table, espérant que quelqu'un s'intéresserait à sa remarque. Personne ne souffla mot. « Ne voudrais pas porter une perruque, » dit Tom, risquant une seconde observation. « Je t'en prie, Tom, ne fais pas le nigaud, » lui dit son père. « Fais-moi le plaisir d'écouter, tâche de profiter de la conversation, et lance pas constamment de tes réflexions idiotes. »« Bien, papa, » répondit le pauvre Tom, qui n'avait pas dit une parole depuis 5h15. Il avait alors demandé une seconde tranche de bœuf. Et il en a été 8. Console-toi, Tom, fit le brave oncle. « Vois-tu, je suis de ton avis. Moi non plus, j'aimerais pas mettre une perruque. Je préfère encore un tablier. » Monsieur Malderton toussa énergiquement. Monsieur Barton reprit. « Car si un homme rougit de sa profession, » la toux reprit 10 fois plus violente et ne s'arrêta pas que le pauvre diable qui l'avait provoqué n'eut complètement oublié dans son émoi ce qu'il allait dire. « Monsieur Sparkins, » dit Flamwell, revenant à la charge, « connaîtriez-vous Monsieur de La Fontaine de Bedford Square ?»« Ah oui, oui, nous avons autrefois échangé les cartes et j'ai eu depuis lors l'occasion de lui rendre un grand service, » répondit Horatio, rougissant légèrement, sans doute d'avoir été entraîné à faire étalage de cette action. « Je vous envie d'avoir pu obliger un tel homme, » déclara Flamwell avec un air de profond respect. plus confidentiellement, tandis qu'ils gagnaient le salon. Horatio, marchant devant eux, il dit à M. Malderton, « Mais qui est-il exactement ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est évident qu'il appartient au barreau, qu'il est quelqu'un d'important et qu'il a de plus belles relations. »
C'est pas douteux, pas douteux, répliqua l'interlocuteur.
Le reste de la soirée se passa de façon charmante. M. Malderton, délivré de ses craintes depuis que M. Barton s'était profondément endormi, fut affable et charmant au possible. Miss Teresa joua The Fall of Paris d'une façon que M. Sparking déclara tout à fait magistral, et tous deux, aidés de M. Frédéric, se lancèrent dans des chansons et des trios sans fin, ayant eu le plaisir de découvrir que leur voix s'harmonisait parfaitement. À dire vrai, ils faisaient tout droit à la première partie, et Horatio, qui avait le léger défaut de manquer d'oreille, se trouvait ignorer en outre la première note de musique. Malgré cela, ils passèrent le temps très agréablement, et ce ne fut qu'après minuit que M. Sparking demanda qu'on lui amenât son fameux coursier, noir comme un cheval d'enterrement. Désir auquel on accéda, d'ailleurs, qu'après qu'il eut formellement promis de renouveler sa visite le dimanche suivant. « Mais, suggéra Mme Malderton, peut-être M. Sparking accepterait-il d'être des nôtres demain soir ?»« M. Malderton a l'intention de mener nos deux filles voir la pantomime. » M. Sparking s'inclina et promit de rejoindre le petit groupe dans la loge 48 au cours de la soirée. « Nous ne vous retenons pas pour la matinée, » fit Miss Teresa d'un air enjôleur. Car maman doit nous mener faire des achats dans un tas de magasins. Je sais que les messieurs exècrent ce genre d'exercice. » M. Sparking s'inclina de nouveau, déclarant qu'il en eût au contraire été ravi, mais qu'il avait sa matinée prise par des affaires importantes. Flamwell regarda Malderton d'un air entendu. La session des tribunaux, murmura-t-il. À midi, le lendemain, le fiacre attendait à la porte d'Oak's Lodge pour prendre Miss Malderton et sa fille, qui avaient des courses pour toute la journée. Elle devait dîner et s'habiller chez des amis avant d'aller au théâtre. Elles emportaient donc leurs cartons avec elles. Mais elles se firent conduire, pour commencer, chez M. Jones, Spriggins et Smith, dans Tottenham Court Road, où elles avaient à faire quelques achats. Après quoi, chez Radmain, dans Bond Street, et de là dans une foule d'endroits absolument inconnus. Les deux sœurs trompaient de leur mieux l'ennui de la course, célébrant les louanges de M. Horatio Sparkins, reprochant à leur mère de les emmener si loin pour économiser son shilling, et leur demandant si elles arriveraient jamais à destination. Enfin, le véhicule s'arrêta devant une boutique sordide qui s'intitulait Magasin de nouveautés et dont l'étalage présentait des marchandises de tout genre, des étiquettes de toutes sortes et de toutes dimensions. On y voyait les 7 shillings et en chiffres pléthoriques, avec dans un coin de minuscules 3 farthings parfaitement invisibles à l'œil nu, 350 000 bas boas pour dames, depuis un shilling, un penny et demi, de véritables souliers et de chevaux français à 2 shillings 9 pence la paire, des ombrelles vertes à non moins bon marché et des marchandises de toute catégorie sacrifiées, assurait le propriétaire, à 50% au-dessous du prix comptant.
« Ciel, maman, où nous avez-vous amenés ?» dit Miss Teresa. « Mais que dirait M. Sparking s'il nous voyait ici ?» Mais oui, que dirait-il? Fit Miss Marianne, terrifiée à cette seule idée. Veuillez vous asseoir, mesdames. Par quel article désirez-vous commencer? S'enquit obséquieusement le maître des cérémonies de l'établissement, qu'une large cravate blanche, trop bien nouée, faisait ressembler à un mauvais portrait de gentleman à l'exposition de Somerset House. Je voudrais voir des soirées, répondit Madame Middleton. Un instant, madame. Monsieur Smith. Ah, mais où est donc Monsieur Smith? Ici, monsieur, répondit une voix du fond de la boutique. Dépêchez-vous, Monsieur Smith, cria le maître des cérémonies. On ne vous trouve jamais quand on a besoin de vous, monsieur. Monsieur Smith, ainsi sommé d'arriver au plus vite, sauta lestement par-dessus le comptoir et s'en vint droit aux nouvelles clientes. Madame Manhattan ne put retenir un léger cri. Miss Teresa, qui s'était penchée pour parler à sa sœur, releva la tête et vit devant elle Horatio Sparkins, jetant un voile, comme disent les romanciers, sur la scène qui suivit. Le mystérieux, le philosophique, le romanesque Sparkins, Sparkins le métaphysicien, celui qui, aux yeux de la sentimentale Teresa, semblait l'incarnation vivante de ces jeunes durs et de ces poétiques dandys, aux robes de chambre et aux pantoufles de soie bleue, qui peuplaient ses lectures et ses rêves, mais qu'elle n'avait jamais espéré voir de ses yeux. Horatio Sparkins s'était soudain mué en un monsieur Samuel Smith, commis d'un magasin de soldes, second associé dans une maison instable, ayant peut-être 3 semaines d'existence. La digne retraite du héros d'Oak Lodge, si opinément reconnue, ne peut se comparer qu'à celle d'un chien furtif, traînant un lourd chaudron attaché à sa queue. Du même coup, tous les espoirs des Malderton s'effondrèrent comme les glaces au citron d'un banquet de corporation. Le bal d'Almaco restait pour eux aussi lointain que le pôle Nord, et Miss Teresa ne risquait pas beaucoup plus de trouver un mari que le capitaine Ross le passage du Nord-Ouest. Des semaines ont passé depuis les événements de cette fatale journée. 3 fois les pâquerettes ont fleuri le gazon des Camberwell, 3 fois les moineaux ont rempli de leurs piaillements printaniers les bosquets de Camberwell, et les demoiselles Malderton sont encore sans mari. Or, le cas de Miss Teresa est plus désespéré que jamais. Flamwell, par contre, est au zénith de sa gloire, et la famille a toujours, pour les membres de l'aristocratie, la même prédilection, doublée d'une aversion croissante pour tout ce qui est du « commun ».